Donc vous êtes bien sur Radio Esperanza depuis Culte, également sur les radios partenaires Run à Namur, UFM à Mons, 48 FM à Liège et Radio Panique et Radio Campus à Bruxelles. Et on reçoit Charlotte tout de suite. Bonjour, bonjour Charlotte.
Bonjour.
Alors poil ou pas poil?
Poil hein, pour moi. Enfin, donc moi je garde mes poils. Hein. Je
voilà.
M'épile plus, donc, voilà.
Tu t'épiles plus, donc tu l'as fait un moment.
Ouais. Parce que j'ai 25 ans du coup, et comme tout le monde, à 13 ans, j'ai commencé à m'épiler. Et puis il y a 2 ans, je me suis dit, non, en fait, pas convaincue, ça fait mal, ça sert à rien. Et j'en ai marre d'obéir à ça, et donc voilà. Moi, maintenant, je garde mes poils, je les porte fière.
Et ton entourage a réagi comment?
Étonnamment, moi, je pensais que j'allais me prendre que des réflexions atroces en permanence. C'est ça qui me faisait peur, mais au final, j'ai reçu assez peu de remarques négatives, sauf ma mère, mais voilà.
C'est les mamans, quoi.
Voilà.
C'est en plus, tout d'un coup, tu m'as montré tes jambes, tu m'as dit, bah, et en fait, oui, bah non. Et en fait, on se focalise pas.
Et pas tellement de gens le voient, en fait. Il y a plein de gens qui découvrent, ah, quand je leur dis que je m'épile pas, ils font, ah bon, alors que ça fait, je sais pas, 2 heures que je parle avec eux en jupe ou en short, et personne. Les gens ne se passent pas leur vie les yeux fixés sur tes jambes ou sur tes aisselles.
Allez, ça rassure.
Ouais. Un peu.
Donc ça confirmerait que c'est vraiment notre propre regard sur notre corps qui est le premier obstacle.
Après, je pense que ça dépend aussi parfois des âges aussi. Je pense que quand on est plus jeune, avant de commencer à m'épiler, avant d'avoir 13 ans, j'avais déjà pris des réflexions ou tout ça. Et donc, je pense qu'à des âges aussi, on est plus dur. Mais moi, bon, je pense que non, il faut quand même pas nier que c'est pas toujours facile d'assumer. On est quand même dans une société qui montre que des corps de femmes complètement épilés. Donc, je pense que même si après, je me suis rendu compte que j'ai pris assez peu de remarques. Négatif, c'est pas pour ça que je pense que le regard des gens est toujours positif. Peut-être qu'ils sont juste polis, ils osent rien dire, mais c'est pas non plus toujours facile à assumer. Bah, ça va mieux avec le temps. Voilà.
Alors, mais là, t'es pas ici pour parler de tes poils.
Enfin, pas vraiment.
On peut continuer, mais bon.
Pourquoi pas.
Mais tu fais partie d'un collectif, un jeune collectif, le collectif 8 mars.
Ouais, c'est ça.
Donc 8 mars, 8 mars.
Yeah.
Ça fait écho chez vous, 8 mars. Vous savez ce que c'est, la date du 8 mars?
Ouais, on sait ce que c'est, oui.
Non, ça va, donc au Congo aussi, il y a la journée. Et vous appelez ça comment, vous?
8 mars.
Ouais.
La journée de la femme. Nous, on appelle ça comme ça.
Ouais.
Et comment on appelle ça chez nous?
Ça dépend, mais le nom le plus long, c'est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Et donc, il y a plusieurs déclinaisons entre journée des femmes, journée de la femme, journée de lutte pour les droits des femmes.
Parce que souvent, il y a des gens qui interviennent en disant, la journée de la femme, ça veut dire que les 364 autres jours de l'année,
c'est pour les hommes. Ouais, c'est ce qu'ils disent.
C'est la grosse blague des villes, là.
Ouais. Donc, c'est un peu la réalité, en fait. Hein. Il n'y a pas beaucoup de jours où on met tellement en avant les femmes, ce qu'elles font, leur lutte. Et donc, pour certains, c'est une blague, mais en vrai, c'est
non,
pas
non,
une analyse.
La blague de dire que c'est les 364 jours.
Mais c'est une analyse pas si fausse, malheureusement.
Et donc, vous, dans ce collectif assez récent?
Ouais. Du coup, on est un... En fait, on est un groupe de féministes, surtout de Bruxelles, mais on s'élargit, et qui avions été impressionnés par le mouvement de la grève espagnole. Enfin, donc, cette année, les femmes espagnoles ont fait des grèves massives le 8 mars en Espagne. Et nous, on s'est dit, mais enfin, c'est ça qu'on doit faire, en fait, pour faire un 8 mars combatif de lutte et qui travaille aussi sur des questions sur le travail gratuit des femmes, sur la question des violences. Et donc, on s'est dit, en fait, on va faire la même chose en Belgique. Et du coup, on a commencé à travailler ensemble depuis mi-juin. Et donc là, on est au début, donc on est en train de s'élargir. Et on invite notamment à une première grande assemblée le 7 octobre après-midi à Bruxelles pour commencer à s'organiser concrètement. Mais là, on a déjà un stand à Esperanza où en fait, on visibilise cette idée, mais on parle aussi d'action directe féministe, des combats féministes, et pour introduire l'idée de grève en fait chez les gens, et chez les femmes surtout.
Alors, une grève des femmes, c'est quoi? Parce que là, on peut se demander. Mais, alors, est-ce qu'elles ne, ce jour-là, vous les appelez à ne pas travailler, à ne pas travailler à la maison non plus?
Ouais.
Ça se traduit comment?
Et du coup, les Espagnoles, par exemple, elles avaient travaillé sur 4 axes. Et donc, elles disaient ne pas travailler, mais donc pas d'avoir. Donc, la société, on considère souvent le travail comme le seul travail rémunéré. Et donc, ça prend en compte, en fait, tout ce qui est le travail gratuit, donc le travail domestique, mais aussi les stages non payés dans le cinéma. Tout le travail de bénévolat, tout ça. Donc ça, c'est un premier axe, donc ne pas travailler. Le deuxième axe, c'est ne pas prendre soin. Donc on parle parfois du travail du care, donc du fait de prendre soin qui est principalement effectué par les femmes, donc que ce soit envers les enfants, les personnes âgées, les partenaires. Et donc ça, on propose aussi ce jour-là de ne pas prendre soin. pas parce que c'est mal de prendre soin des gens, c'est juste que c'est un problème de la répartition inégale de ce travail. Un troisième axe, c'est ne pas étudier, puisque on pense aussi que étudier c'est une forme de travail. Et le quatrième axe, c'est ne pas consommer, ainsi ne pas participer à la vie économique et ne pas de créer de valeur là-dessus. Et donc ça, c'est les quatre axes qu'on propose. Et on propose aussi en alternative de rejoindre une grande manifestation. Là, j'avoue qu'on est encore un peu loin de son organisation, mais une grande manifestation, probablement à Bruxelles et peut-être dans d'autres villes. Voilà, pour ne pas non plus faire grève pour rester chez soi, parce que c'est aussi l'idée de sortir de cet espace qu'on nous assigne. Et donc voilà, en gros.
Et se visibiliser, quoi, c'est se rendre...
Ouais, c'est ça. Et bah, c'est aussi montrer, en arrêtant de travailler, mais en fait, tout le travail que font les femmes, pas seulement dans le travail rémunéré, mais aussi dans toutes les tâches qui sont effectuées dans la société. Et donc montrer que quand les femmes s'arrêtent, tout s'arrête, en fait. Voilà.
Alors en Espagne, comment ça a été suivi, cette grève?
Je vous avoue que je ne sais pas donner de chiffres, mais c'était quand même, c'est une grève qui a été assez massive. On en a parlé dans toute l'Europe. Mais il faut savoir qu'en Espagne, ils ont des mouvements féministes très forts, et notamment parce qu'il y a 4 ans, ils avaient subi des attaques sur le droit à l'avortement. On avait tenté d'interdire le droit à l'avortement, et puis le gouvernement avait retiré sa proposition de loi. Et donc, ils ont un historique récent de très grande mobilisation féministe. Et donc, ils se sont remis en avant ici à cette occasion du 8 mars. Il y avait des manifs gigantesques dans toutes les villes d'Espagne et les femmes qui arrêtaient de travailler. Enfin, c'était très inspirant et très impressionnant. Voilà. On n'est pas sûr qu'on va arriver à un tel résultat cette année, mais bon, ça se construit avec le temps aussi.
Voilà. Vous avez des partenariats, des associations qui...
Du coup, c'est dans nos objectifs, mais là, on n'a pas encore pris contact formellement avec toutes les associations. D'autant plus que c'est l'été, en fait, aussi, pour des questions, c'est pas le moment, mais... l'idée c'est pas de travailler toute seule dans notre coin, mais en fait de travailler avec tous les acteurs de la société civile qui travaillent sur ces questions-là, mais que ce soit du coup, les organes féministes, les syndicats. De toute façon, si on veut un préavis de grève, il va falloir pas rester dans notre coin. Donc ça, c'est au programme. Voilà.
Du coup, concrètement, ça marche comment? Enfin, c'est... Voilà, moi je suis d'accord. J'espère même que ça tombera un lundi ou un mardi. Hein. Ça, c'est encore mieux. Ça se passe concrètement. Comment est-ce que vous allez pouvoir toucher comme ça les femmes?
Concrètement, on fait des moments de mobilisation comme ici, mais le mouvement va surtout se lancer le 7 octobre à la première AG d'organisation. Et là, on travaille pour essayer d'y réunir pas seulement des Bruxelloises, pas seulement des jeunes, pas seulement des gens de nos milieux, entre guillemets, mais aussi avoir des Flamands, des gens de la Wallonie, des gens de tous les âges, de tous les milieux. Et donc, ça, c'est le gros travail qu'on fait actuellement. Et du coup, après, cet AG, je pense, réfléchira à des pistes sur en fait, comment est-ce qu'on arrive à mettre en grève un maximum de femmes. Mais du coup, là, je pense que travailler avec les syndicats sera indispensable, puisque en fait, c'est les seuls qui peuvent fournir un préavis de grève. Pas trop de choix. Donc, et on est plusieurs à être investis dans les mouvements syndicaux, donc je pense que c'est pas non plus ça ne va pas être un problème spécialement. Je pense qu'après, peut-être qu'on s'organisera de façon plus locale, pas seulement au Bruxello-centré, mais... J'avoue qu'à ce stade-là, on n'a pas encore la grande architecture de notre mouvement à vous présenter.
Parce que moi, je me dis que d'un certain côté, ça ne va pas être simple. Ça ne va pas être simple du tout, parce que déjà, il y a beaucoup d'hommes qui vont peut-être regarder ça d'un air bizarre. Mais aussi, les femmes, il y a beaucoup de femmes en fait, qui renient ce côté de besoin de combat, de lutte pour une égalité homme-femme.
Oui, mais je pense qu'il y a 3 difficultés. D'abord, celle de... identifier la nécessité d'une lutte féministe, même quand on est femme, même si je pense qu'on est quand même dans une période où on parle beaucoup de féminisme, notamment avec tous les discours sur le harcèlement, les hashtags qui ont circulé. Donc j'ai l'impression quand même qu'on est dans une année propice pour en fait entamer ce genre de processus. Il y a aussi la question de faire grève, la grève aujourd'hui en Belgique, c'est pas le truc le plus sexy, quoi. C'est pas ce qui est le mieux vendu dans les médias. Il faut revenir au fondement de c'est quoi la grève et en fait. Qu'est-ce que ça permet de visibiliser? Et puis la troisième chose, c'est la question de travailler entre femmes, puisqu'on a dit que c'est une grève de femmes, de gérer, entre guillemets, tous les hommes qui, du coup, vont se sentir exclus. Même si après, nous, c'est pas qu'on n'en veut pas, on aura besoin d'aide, et donc, franchement, ils devront être là pour nous faire du babysitting, pour nous aider à faire tourner les caisses de grève, imprimer des tracts, et donc, ils seront les bienvenus, mais c'est pas eux qui prendront les grandes décisions, quoi. Voilà. Ça, c'est les 3 difficultés. Mais bon, on est motivés, donc...
Du coup, c'est un groupe non mixte.
Ouais. Oui, on s'organise entre femmes. Voilà. Mais après, avec le soutien des hommes, on trouve qu'on ne doit pas être spécialement que des femmes à assumer la logistique et tout ça. Et donc, pour ça, ils sont les bienvenus.
Moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui est super intéressant dans cette grève, c'est qu'actuellement, en effet, la grève n'est pas sexy en Belgique. Il y a pas mal quand même.
Ouais, il y en a pas mal, mais...
Mais on n'arrive jamais à des grèves intersectorielles. C'est toujours un secteur qui fait grève, puis un autre. Tandis que là, il y a vraiment... Bon, d'accord, ce sont que des femmes, entre guillemets. Enfin, quand je dis ce sont que des femmes, c'est toujours que la moitié de la population. Mais il y a pas, c'est pas par secteur. Enfin, je veux dire, il y a une cause commune et qui est revendiquée communément, ensemble. C'est peut-être plus simple de dire ensemble que de chercher un mot intelligent. Et ça, c'est peut-être aussi une force que vous... qui pourrait être intéressante.
Bah ouais, et c'est aussi ce qui va peut-être être dur aussi, c'est de faire en fait travailler plein de composantes ensemble. Enfin, je veux dire, s'il n'y a pas non plus tout le temps des grèves générales, c'est parce que aussi c'est difficile de faire travailler toutes les centrales et tous les milieux.
Et donc, quand même avouer mais que après, les plus grosses grèves qu'il y a eu en Belgique, c'était des grèves générales.
Ah oui, parce qu'elles sont générales, du coup. Oui, mais du coup, c'est ça qu'on vise. Enfin, sauf que du coup, ce sera pour les femmes, mais à la fois c'est un plus grand défi, mais je crois que ouais, du coup, ce sera d'autant plus riche. Oui, et c'est aussi mettre ça en avant, en fait on est des femmes et sur certains aspects on subit tous la même condition matérielle et donc allions-nous là-dessus et arrêtons de travailler tout ensemble.
Il y a un souci de revendication aussi qui pourrait être porté au niveau politique.
Mais du coup on a décidé de travailler sur deux grands axes, qui sont l'axe des violences faites aux femmes, qui sont en fait un très large spectre, et la question du travail gratuit effectué par les femmes, qui sont aussi deux thèmes qui peuvent être liés. On n'est pas encore plus loin dans la formulation exacte des revendications, mais on attend en fait de réunir une assemblée générale. On estime qu'en fait sera plus porteur si en fait tout ensemble, avec en fait une AG plus diverse, ça, on décide exactement qu'est-ce qu'on veut porter, et que ce sera d'autant mieux suivi et d'autant plus porteur. Voilà.
Alors moi j'avais une question du coup, enfin, j'en ai beaucoup. Hein.
Ouais, je t'en prie.
C'est donc tu parles de travail gratuit, alors souvent. On réclame pour les femmes au foyer un salaire. Je te vois sourire, j'adore ça. Alors, qu'est-ce que, au niveau du collectif ou toi-même personnellement, tu penses quoi ? Parce que du coup, on parle de travail de travail gratuit parce que la femme qui reste à la maison finalement ne peut valoriser le travail qu'elle fournit pour la société, puisque c'est quand même, j'ai lu un bouquin génial pour ça, que c'est elle qui fournit les travailleurs de demain. Donc en fait, elle a une production. Capitaliste
et quelque part, et
marchande. Oui,
elle entretient la force de travail. Mais
c'est réducteur aussi quelque part de dire ça.
Oui, non, mais on va pas dire que les femmes font que ça, mais c'est quand même une de leurs tâches importantes. Ça leur prend du temps en tout cas. Je pense qu'on n'a pas du tout de position dans le collectif Wimar sur est-ce qu'on est pour le salaire ou pas des femmes qui travaillent chez elles. Moi, ma position personnelle, du coup, ce serait plutôt de dire que s'il doit y avoir salaire, il doit être payé par le partenaire. L'État n'a pas à payer des gens. Enfin. Je veux dire, en fait, pour qui est-ce qu'elle travaille ? C'est pour ça qu'il faut penser. En fait, elle travaille pour la personne qu'elle entretient. Et donc, en fait, c'est cette personne-là qui doit lui fournir un salaire. S'il y a un comme ça. Après.
Après, du coup, c'est quand même remettre la femme du coup, au foyer.
Ah oui, non, après, du coup, est-ce que c'est pertinent ou pas ? C'est un point de vue stratégique. Ça, je ne suis pas plus convaincue que ça. J'ai l'impression qu'il faut plutôt viser en fait, un vrai partage égal des tâches. Je suis même convaincue, en fait.
Si je peux me permettre, il y a une question qui se pose aussi par rapport à cette idée de salarier les femmes au foyer. L'idée de base, je pense, serait de dire on va les salarier, comme ça, ça a un côté plus égal avec l'homme qui est au travail et qui, du coup, fait moins de tâches ménagères, par exemple. Mais du coup, au final... Ben pour moi, ce problème de salarié, ce fait de salarier des femmes au foyer ne résout en rien le problème que l'homme va de toute façon toujours faire moins de tâches ménagères. Il va être beaucoup moins au foyer avec les enfants que la femme. Il y a des chiffres qui montrent que, en effet, la femme passe beaucoup plus de temps et a vraiment cette idée de second travail à la maison. Et du coup, moi, je me questionne par rapport au fait de légitimer ça à travers un salaire, en fait.
Mais en dehors de le faire ou pas, parce que de toute façon, je pense qu'on n'est vraiment pas dans un horizon politique ou quelque chose comme ça arriverait bientôt, ça permet aussi d'ouvrir une discussion et en fait de poser la question en mode, en fait, ce qu'elles font à la maison, les femmes, c'est du travail. Et donc, ça permet juste de réfléchir à la question de combien ça coûterait, par exemple, de payer toutes ces femmes. C'est quand même juste intéressant de voir, en fait, quel poids ça a dans l'économie. Et donc je trouve que c'est plutôt comme ça qu'il faut poser la question, enfin, à mon sens, c'est plutôt ça amène un débat et ça amène à reconcevoir qu'est-ce que c'est le travail et pourquoi est-ce qu'en fait ce que font les femmes, on considère que c'est pas du travail. Parce qu'en fait, qui détermine qui est le travail, bah, c'est les gens qui sont au pouvoir en fait. Et donc je pense que ça a au moins ce mérite-là d'ouvrir cette discussion-là.
Ouais. Très juste.
Avec Merci. Tous les problèmes aussi en cas de rupture de ces femmes qui ont réduit leur temps de travail et qui se retrouvent dans un état qui est difficile à gérer, en tout cas financièrement, avec souvent des enfants.
Ça les rend super dépendantes. Et là, on peut faire le lien avec les violences, par exemple, domestiques, en fait, où en fait, c'est des femmes qui ne peuvent pas partir, parce qu'en fait, elles n'ont pas de revenus.
Elles n'ont pas les moyens.
Aussi sur la question après des pensions. Et puis, en fait, on a l'impression, quand on parle de travail domestique, que du travail, faire le ménage, s'occuper des enfants, mais il y a aussi toutes les femmes qui sont les partenaires d'un homme qui est indépendant et qui, en fait, qui travaille pour lui, mais sans salaire. Mm-hmm. Les femmes d'agriculteurs, les femmes de médecins généralistes, qui en fait font du travail de secrétariat ou tout ça, et donc qui elles ne sont pas du tout rétribuées. Voilà, et donc c'est aussi une perte d'indépendance parce qu'elles n'ont pas d'indépendance financière. Voilà.
Je propose de passer un petit morceau de musique. Diego, vas-y, DJ.
Somebody try that with me. Say who? Oh, that was pretty good. Try it again. Say who? You got to have that. 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 Who? If caught before you, who can be against us?
à l'instant, c'était le parodie. C'est une femme qui joue, enfin qui vient de Madrid et que moi j'ai pu voir en fait dans un Ladyfest. Je crois que c'était le dernier Ladyfest de Bruxelles d'ailleurs. Voilà, donc vous êtes toujours à l'écoute de Radio Esperanza en direct depuis le village des possibles avec Culte, puisque nous aurons donc des décrochages tous les jours de 14h à 16h, donc aujourd'hui vendredi, demain samedi et après-demain dimanche. Charlotte, j'allais dire Caroline maintenant. Charlotte.
C'est la même racine. Hein.
Charlotte, alors tu peux un peu nous donner donc le collectif 8 mars qui invite les femmes à faire une grève totale et générale le 8 mars. Comment est-ce qu'on peut être tenu au courant des événements? Donc déjà.
Alors en termes de contact, on a un mail qui s'écrit 8, donc le chiffre mars, comme le mois de mars en néerlandais. Et puis de nouveau un 8, et puis mars à gmail.com. Donc
8 mars.
Ouais, 8 mars à gmail.com. On a aussi une page Facebook qui s'appelle Collectif. Alors, collectif, c'est avec i.e.f pour faire la version francophone et anglophone. Et 8 mars avec deux A pour faire un mix entre Marthe et Mars. Et sinon, et donc le premier grand rendez-vous, c'est le 7 octobre à Bruxelles à 15h jusqu'à 18h. Il y aura une assemblée générale. Le lieu est encore à déterminer, mais du coup, si vous êtes intéressé, soit vous nous envoyez un petit mail, soit vous suivez notre page Facebook. Et sinon, à Esperanza, on a un stand, pas dans le village des possibles, à l'extérieur, juste à l'entrée du festival, avec aussi une petite expo pour retracer un peu l'histoire des mouvements d'action directe féministe, de la grève de 2017. Et voilà, on fait de la sérigraphie aussi si vous voulez imprimer vos logos sur vos t-shirts ou sur vos sacs. Ou tout ça. Voilà, vous êtes les bienvenus.
Voilà, ben merci beaucoup Charlotte. On va te laisser rejoindre ton stand parce que comme le festival ouvre dans 2 minutes, le festival ouvre dans 2 minutes pour les festivaliers. J'ai l'impression qu'il y en a déjà en fait qui sont dedans parce que ça a l'air tellement énorme. Et alors d'habitude, le festival s'ouvre et il y a Jean-Yves Lafineur, donc on a reçu l'un mardi, qui en fait donne le clap de l'ouverture des portes. Et alors là, c'est une espèce de festivalier. Donc là, je crois que je vous demande parce qu'il y a quand même pas mal de monde qui arrive. Voilà, bah, écoute, merci beaucoup Charlotte et on te retrouve bientôt ailleurs et sur d'autres ondes aussi. N'hésitez pas à contacter les radios associatives à Bruxelles et ailleurs pour parler de ce 8 mars. Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Au revoir.